Vous écoutez France Culture.
Réplique, l'héritage de Napoléon Bonaparte avec Patrice Guénifet et Lionel Jospin. De Patrice Guénifet, l'auteur d'un livre remarquable sur le 18 Brumaire, on espérait une biographie de Napoléon. Le premier tome est paru et ce Bonaparte comble l'attente. Avec Lionel Jospin, c'est la surprise qui prévaut. Rien dans son parcours de premier secrétaire du Parti Socialiste, de ministre d'Éducation nationale, de premier ministre et de président de la commission de déontologie et de rénovation de la vie publique ne laissait présager un essai sur le mal napoléonien. L'étonnement étant à la source de la philosophie, je vous demanderai pour commencer, Lionel Jospin, non, quelle mouche vous a piqué, mais à quelle nécessité, à quelle urgence vous avez obéi en dénonçant aujourd'hui ce mal, Lionel Jospin.
S'il y a nécessité, elle était intérieure. Je voulais me confronter à ce mythe napoléonien et je voulais le faire non pas comme les historiens. Vous avez parlé d'un essai, c'est un essai historico-politique. Mais je voulais le faire du point de vue des intérêts de la France, c'est-à-dire confronter cette personnalité effectivement exceptionnelle à la réalité de ses résultats, en tout cas en 1815, pour la France, qui sont à mes yeux catastrophiques. Urgence, je dirais simplement que compte tenu d'une certaine complaisance d'une partie des Français pour l'autoritarisme qui court à travers notre histoire, justement depuis Napoléon Bonaparte, lorsqu'il y a un certain trouble dans la République, eh bien peut-être est-il urgent de faire quelques rappels.
Oui, mais pourquoi ce titre « Le mal » car Napoléon, c'est en effet une trajectoire exceptionnelle, météorique, et en même temps qui a laissé des traces très profondes, et peut-être faut-il faire un inventaire de son œuvre, mais quand vous l'englobez sous le mot « le mal », c'est comme si il n'y avait rien à sauver de ce qu'a été l'épisode napoléonien dans l'histoire de France, Lionel Jospin.
J'ai fait un entretien récemment pour le Sunday Times et je me demandais comment ils traduiraient le mal. Ils l'ont traduit par « wrong » et ça me paraissait excellent de mon point de vue. Ils ne l'ont pas traduit par « evil ». Donc ma connotation n'était pas morale, elle était politique. Je pense que à la question « le passage météorique de Napoléon Bonaparte, ses 15 ans du consulat et de l'Empire » ont-ils été un bien ou un mal pour la France? Je réponds un mal. On peut aussi, dans ce titre, voir une définition plus médicale et considérer que le mal napoléonien est peut-être aussi une maladie qui va courir ensuite dans l'histoire politique française et qui est celle de la tentation césariste ou de l'illusion que peut avoir une partie des Français dans l'utilité d'un sauveur, d'un chef charismatique.
D'un homme providentiel.
D'un homme providentiel.
Patrice Guénifet, est-ce que vous vous retrouvez dans un titre pareil, dans un concept comme celui-là, le mal napoléonien ?
Non, bien sûr que non. Bon, je ne veux pas dire que le bilan est entièrement positif, parce que ça serait forcément exagéré. Je pense que comme tout bilan politique, il est mitigé. Certes, cette histoire de 15 années, c'est très mal fini, et là-dessus, je ne vous disputerai pas vos conclusions. Simplement, je pense que intituler le mal napoléonien, c'est ne pas voir ce qu'il y a eu de durable dans cet héritage qui a refaçonné le visage de la France moderne, la France, ou plutôt qui a donné un visage à la France post-révolutionnaire. Et puis d'autre part, c'est manquer un peu la moitié du problème, parce que si effectivement on peut disputer de l'héritage matériel de la période napoléonienne, en même temps Napoléon est resté comme un mythe, et un mythe qui a infusé tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle. C'est-à-dire qu'à côté de l'héritage matériel, il y a en quelque sorte l'héritage imaginaire qui est au moins aussi important. Il suffit de regarder la littérature du XIXe et même d'une partie du XXe pour le comprendre. Tous les grands écrivains, pas seulement français d'ailleurs, ont été fascinés par la figure de Napoléon qui leur paraissait représenter une énigme historique et une énigme philosophique, morale et humaine. Donc d'une certaine façon, vous êtes aveugle à cette part de l'héritage et vous ne considérez que le bilan matériel, qu'il est vrai peut être discuté, mais que là encore vous jugez à mon avis trop négativement.
Alors on commence par quoi ? Le bilan mythologique ou le bilan matériel ?
Essayons d'établir le bilan matériel. Patrice Guénifet a dit, non pas reconnu, parce qu'il le pense lui-même et l'écrit, bien que pour le moment il en soit à Bonaparte, pas encore à Napoléon. En 1815, comme le dit Patrice Guénifet, ça a très mal fini. C'est-à-dire que la France, après avoir remporté tant de victoires sous l'égide de ce génie militaire, est battue, occupée, doit payer des indemnités lourdes, est isolée en Europe, et tous ceux qu'elle a battus, la Russie, la Prusse, l'Autriche, s'étendent territorialement, cependant que la France ne garde même pas les frontières héritées de la Révolution, c'est-à-dire les frontières dites naturelles. De ce point de vue, donc, du point de vue de la puissance de la France en 1815, le bilan est absolument catastrophique. Naturellement, il convient de le nuancer, et je reste sur le terrain matériel, lorsqu'on pense à un certain nombre d'institutions que Napoléon a créé, et on peut peut-être ensuite rebondir sur l'autre thématique évoquée par Patrice Guénifet, c'est-à-dire l'héritage imaginaire.
Alors d'accord, commençons donc par ce qu'il y a de durable dans l'héritage napoléonien. Alors je citerai François Furet dans son livre sur la Révolution française, il dit qu'en effet, ce qu'il a fait de durable est accompli entre 1800 et 1804. Ensuite, rien de ce qu'il a bouleversé dans les frontières et la situation internationale du pays ne survit à sa chute. Quand il tombe en 1814, les Bourbons retrouvent le territoire du royaume qu'ils ont quitté un quart de siècle auparavant. Mais en effet, je cite François Furet, tous les noms inséparables de la mémoire nationale, préfet, Banque de France, Conseil d'État, lycées, grandes écoles, évoquent toujours la France où nous vivons. On lui doit la fondation de l'État administratif et aussi le Code civil. Et il paraît difficile, en effet, de placer toute cette œuvre à laquelle Napoléon, et votre livre le montre bien, a pris une part active. C'est un homme qui aimait moins la jouissance du pouvoir que l'exercice du pouvoir, à la différence d'un certain nombre de ses successeurs, monarques républicains. Et c'est difficile de placer ça sous le label mal napoléonien, Lionel Jospin.
Ça n'est pas ce que je place sous le mal napoléonien. Et de la même manière que j'évoque le génie militaire de Napoléon Bonaparte, de la même manière, je rappelle qu'il a constitué ce que les historiens appellent les masses de granit de l'administration française. Simplement, il ne faut pas imaginer que, par exemple, le Code civil sort tout armé de la tête de Bonaparte comme Athéna de la tête de Jupiter. Il y a eu trois projets de Code civil sous la Révolution, deux sous la Convention, un sous le Directoire. Et donc ce travail de codification des rapports des Français entre eux à travers le Code civil, il était en préparation. La force de Napoléon, c'est d'être capable de rassembler un petit groupe d'hommes qui va faire cette synthèse du droit ancien, du droit romain et des apports révolutionnaires, et de le faire en 4 mois, c'est-à-dire à une extraordinaire vitesse. Donc je ne récuse pas du tout l'existence de ces institutions. Je dis simplement que quand on parle aujourd'hui d'héritage, puisque c'est le thème de l'émission à laquelle vous nous avez conviés, il faut combien comprendre que toutes ces institutions ont profondément changé de nature depuis Napoléon, bien sûr. le Conseil d'État, les lycées, les universités, même les préfets, la Banque de France, ne sont pas dans le statut aujourd'hui de celui qui était à l'époque de Napoléon. Elles ont été, comme dirais-je, transformées par le courant démocratique, naturellement.
Patrice Guénifet.
Vous savez, toutes les institutions changent et évoluent parce que les sociétés changent. La Constitution américaine elle-même a reçu 21 amendements, si je ne me trompe pas. Donc, toutes les institutions changent. Maintenant, sur la part qu'il y a prise, le problème, ce n'est pas qu'il y ait eu déjà 3 projets de code civil avant que l'affaire aboutisse sous sa direction, c'est que l'affaire n'avait pas pu aboutir avant lui. Et que c'est un peu le cas d'ailleurs pour tout, parce que toutes les réformes qu'il a mises en œuvre sous le consulat avaient été souvent pensées sous le directoire. Parce qu'après tout, tout le monde réfléchissait aux institutions qui conviendraient à la France d'après la Révolution. Alors il a eu le génie, c'est ça en partie son génie, c'est le génie de transformer des projets en décisions politiques. Avant tout, c'est ça. Même si, en plus, il prend une part personnelle dans l'élaboration, dans la conception et la réalisation des réformes. Parce que c'est quelqu'un qui apprenait vite et qui avait un avis un peu sur tout. Et qui avait aussi une manie du contrôle telle, et c'est son tempérament despotique qui, de ce côté-là, a du bon. Son tempérament despotique fait qu'il veut être au courant de tout ce qui se fait, il veut contrôler le processus de bout en bout.
Oui, alors justement, pour évaluer l'importance et la valeur de cette œuvre, je voudrais vous citer dans votre livre, Patrice Guénifet. Alors d'abord, vous vous référez à une phrase de Jacques Bainville que vous trouvez très injuste. Il dit, Bainville, que les travaux du consulat ont été la période et le côté poule au pot de Bonaparte. Et vous commentez assez sévèrement, alors que vous avez écrit la préface du Napoléon de Bainville, qui est un grand livre, que ce n'est pas vrai du tout, parce que son rôle de chef civil comptait au moins autant à ses yeux que celui de chef militaire. Il savait, dites-vous, marier le grandiose et l'utile. Il y avait en lui une sagesse administrative. Et, un peu plus loin, vous ajoutez ceci, citant cette fois Jean Carbonnier, notre très grand juriste. Eh bien, et ça, je pense que Lionel Jospin va réagir, vous dites que par le premier consul, le code civil a été coiffé du bonnet rouge, car Napoléon l'a défendu comme l'expression même du droit révolutionnaire. Adopter le code civil, c'était abolir les droits féodaux, morceler les héritages, séculariser le mariage, légitimer le divorce. Et là-dessus, Bonaparte s'est montré intransigeant. La considération la plus importante dans ce code est celle du divorce, et c'est ce qu'il écrit à Murat, qui désirait ne pas en appliquer certaines clauses dans le royaume de Naples. Le divorce est le fondement de ce code. Vous ne devez y toucher d'aucune manière, c'est la loi de l'État. Je préférerais que Naples fût à l'ancien roi de Sicile plutôt que de laisser châtrer ainsi le code Napoléon. Et il a aussi cette phrase extraordinaire: j'ai semé la liberté à pleine main partout où j'ai implanté mon code civil. Patrice Guénifet.
Il avait, vous savez, le sens des phrases qui résumaient en quelques mots l'ensemble d'une politique. Et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il est celui qui met la révolution en forme et qui, au fond, assure sa pérennité. Parce qu'il va transformer des principes en institutions. Alors certes, il procède à un inventaire dans la Révolution, et c'est un peu l'idée de sa politique, qui est une politique de fusion, donc d'inventaire des héritages, héritage de l'Ancien Régime d'un côté, héritage de la Révolution de l'autre. Alors c'est vrai que dans certains domaines, il y a un retour en arrière par rapport aux réalisations, aux principes de la Révolution, mais dans beaucoup d'autres domaines, dont celui du Code civil, il y a une confirmation des principes de la Révolution contre la tradition héritée de l'Ancien Régime. Mais il avait pensé, c'est un peu l'intuition fondamentale qu'il avait acquise en Italie lors de la première campagne d'Italie, c'est que la Révolution n'aurait d'avenir, ne pourrait devenir une institution, donc un avenir pour la France, que si elle n'était plus seulement une rupture radicale avec le passé, mais si s'opérait une fusion des deux traditions, donc des deux France. Et c'est ça tout l'enjeu du consulat.
Lionel Jospin.
Oui, un certain nombre d'historiens, et je ne sais si Patrice Guénifet se place parmi eux, suspectent tout de même Napoléon d'avoir été si ferme sur le divorce, parce que voyant que sa femme, Joséphine, était stérile, il voulait soit par l'adoption, soit même par un nouveau mariage qui nécessitait un divorce, s'offrir la possibilité d'avoir un héritier pour fonder cette nouvelle dynastie qui était quand même son projet, projet qui est aux antipodes de la République. Ça, c'est pour ce qui concerne le divorce.
Oui, mais enfin, il voulait aussi que le divorce soit instauré au royaume de Naples. Donc, il n'était pas obligé,
pas seulement
pour lui-même. S'il voulait, s'il voulait ménager la possibilité de divorcer en France, il était obligé de l'exporter.
Je pense que vous cédez l'un et l'autre, et non. En tout cas, vous, à l'instant, Alain Finkielkraut, au péché de naïveté devant Napoléon. Non, mais... En réalité, ce qui s'exprime là, c'est deux choses. C'est d'abord la tendance justement despotique et uniformatrice de Napoléon Bonaparte, qui veut que dans l'ensemble de l'Empire, les mêmes règles s'appliquent. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, il ne veut pas que Murat, son beau-frère, puisse être dans le territoire dont il est le souverain à l'époque, ne veut pas être un précédent.
Les deux raisons ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
Non,
vous pouvez très bien avoir une position sur le divorce et en même temps avoir un intérêt personnel dans l'affaire.
Je suis d'accord.
Après tout, dans nos initiatives et nos décisions, parfois les motifs et les mobiles sont multiples.
Il me semblait, au cœur favorable à Napoléon, que cette petite musique pouvait être aussi entendue. Mais je suis d'accord avec vous, les choses ne sont pas forcément contradictoires. Sur le code civil, quand même, il faut se souvenir de cette phrase extraordinaire de Bonaparte, qui est de dire, lorsque dans le code de la famille est affirmée la suprématie des parents sur les enfants et du père ou du mari sur la femme, cette phrase extraordinaire, il faut que la femme sache qu'en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari. Donc, la vision de Napoléon, de Bonaparte à l'époque, dans une époque qui, certes, du point de vue de la condition de la femme, n'était pas celle d'aujourd'hui, est quand même en retrait par rapport à ce qu'avait esquissé la Révolution. Enfin, en ce qui concerne l'affirmation, la phrase, à l'intention de Murat, « J'ai semé la liberté à pleine main », en Europe, Napoléon Bonaparte ne sème pas la liberté. Il s'oppose au mouvement nationaux. Il s'oppose à la liberté dans l'Empire comme il restreint la liberté en France même. Et il aurait été d'ailleurs contradictoire qu'il instaure la censure de la presse, qu'il limite les pouvoirs du Parlement, qu'il contre toute opposition et qu'en même temps, il répande les libertés dans l'Europe. Et c'est une des critiques que je fais, c'est que je pense que sans l'irruption de Napoléon Bonaparte dans l'histoire, qu'elle ait été nécessaire ou qu'elle soit le fait d'un héros, eh bien, Napoléon Bonaparte, donc, ne sera pas un émancipateur de l'Europe. Et je pense que le destin de l'Europe aurait pu être plus fécond, soit s'il avait fait d'autres choix, ceux dont il se réclame dans l'instrument de propagande qu'est le mémorial de Sainte-Hélène, soit s'il n'avait pas été là même.
Patrice Guénifet.
Je crois que le problème vient de ce que vous identifiez, la liberté, à peu près exclusivement avec la liberté politique. S'il sème en effet la liberté à pleine main en Europe, il ne sème pas la liberté politique nulle part. Il la supprime en France et il ne l'instaure pas en Europe. Mais ce qu'il sème à pleine main dans toute l'Europe, c'est la liberté civile et c'est l'égalité civile. Et au fond, il continue l'œuvre jacobine de déracinement de l'Ancien Régime. Et c'est cette filiation entre la Révolution et Napoléon, à la fois à l'intérieur des frontières françaises et à l'extérieur, que vous récusez. Et c'est un peu ça le cœur de votre livre et ce qu'il y a de problématique. Ce n'est pas le jugement que vous portez sur le bilan final de Napoléon, les défaites, les frontières raccourcies, etc. C'est que vous récusez ce lien entre la Révolution et Napoléon. C'est-à-dire que pour vous, il n'en est pas le continuateur, il en est le fossoyeur. Alors qu'à mes yeux, il en est le continuateur. Et par bien des côtés, sous des formes certes différentes de celles de la Révolution, mais sous des formes pas tellement différentes de celles de l'expérience ou de la tradition jacobine, il la continue. Et d'ailleurs, dans toute l'Europe, eh bien, il précipite la fin des anciens régimes, même si les monarchies reviendront du fait même de sa défaite finale,
oui,
sans que l'ancien régime revienne.
Je voudrais nuancer votre affirmation me concernant. Je pense que, en fait, Napoléon Bonaparte est un produit de la Révolution. Sans la Révolution, oui, jamais ce jeune soldat brillant n'aurait pu exister. Il se saisit de ses opportunités. Il est, dans une certaine mesure, un héritier de la Révolution. Et sur un certain nombre de plans, notamment le terrain de l'égalité civile, il la consolide, à condition d'apporter quand même des nuances sur, par exemple, le rétablissement de l'esclavage, quand même, ou bien sur le devoir patriotique avec le système du remplacement. Mais il est aussi un contradicteur de la Révolution, au sens où, hors de l'épisode de la Terreur, qu'il faut intégrer, hein, bien sûr, à la problématique, cette Révolution française initiale, et si son message porte encore aujourd'hui, c'est bien le message initial, c'est quand même une aspiration à la liberté.
À l'égalité.
Et ça, à la liberté et à l'égalité.
Et non.
Et ça, il lancera doublement le contradicteur sur le terrain de la liberté, puisqu'il instaure un régime que vous reconnaissez vous-même comme despotique, et sur le terrain de l'égalité, à partir du moment où il restaure une noblesse, à partir du moment où il y a un système de prébendes qui se développe au profit de sa famille, des grands dignitaires, des grands maréchaux. Et donc, je pense qu'il nie aussi le message de l'égalité, au-delà de l'égalité civile. Et il y a d'ailleurs une indication. C'est que Napoléon veut créer une nouvelle Allemagne, une troisième Allemagne, pour faire face à la Prusse et à l'Autriche. Et il le fait autour de la Confédération du Rhin. Il veut bâtir un État exemplaire, qui est l'État, le royaume de Westphalie. Et à l'intérieur de ces entités, il ne sait pas donner le degré d'autonomie, le degré de liberté qui permettrait, on pourrait dire, des révolutions bourgeoises, pour être à l'époque, ou des révolutions libérales. Et donc tout s'effondrera en 1815. Il apparaît comme l'homme contre les monarchies. Mais en 1815, c'est le congrès de Vienne, c'est-à-dire la victoire des monarchies réactionnaires pour 30 ans.
Oui, s'agissant de la Westphalie et autres créations napoléoniennes, je ne sais pas si vous avez des frères, mais si vous aviez des frères comme les siens, il valait mieux ne pas leur donner d'autonomie du
surtout
tout
celui qu'il a choisi.
Et les contrôler. Mais on fait avec les frères qu'on a, vous savez.
Non, mais
et
il a fait avec les frères qu'il
n'est pas obligé de donner à ses frères.
Il n'est pas obligé de prendre le plus inconséquent, le plus médiocre, le plus nul.
Quand on fonde une dynastie, on doit faire cette dynastie avec ce qu'on a sous la main.
Oui, monsieur Guénifet, mais quand on veut un État exemplaire, il vaut mieux prendre un frère exemplaire.
Je pense que la passion dominante dans la Révolution française à partir de 1789 est une passion égalitaire.
Voilà.
C'est une revendication d'égalité plus que de liberté. Et d'ailleurs, la Révolution n'a pas, accompli la promesse de liberté. Ça fait faillite au bout de 2 ans avec la Constitution de 1791 et c'est fini. Il n'y a pas de liberté réellement politique sous le Directoire. De ce point de vue, l'échec, il est celui-là même de la Révolution française, du point de vue de la liberté, dès le début. Par contre, il répond à la demande d'égalité puisqu'il va la garantir et la consacrer dans des institutions.
Alors là-dessus, je voudrais citer Chateaubriand. Une expérience journalière fait reconnaître que les Français vont instinctivement au pouvoir. Ils n'aiment point la liberté. L'égalité seule est leur idole. Or, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au cœur des Français, militairement incliné vers la puissance, démocratiquement amoureux du niveau. Monté au trône, il y fit asseoir le peuple avec lui, roi prolétaire. Il humilia les rois et les nobles dans ses antichambres. Il nivela les rangs, non en les abaissant, mais en les élevant. Le niveau descendant aurait charmé davantage l'envie plébéienne. Le niveau ascendant a flatté son orgueil. Voilà.
Magnifique.
Donc, il y a quand même un rapport entre Napoléon et l'égalité. Et ce que je viens de lire là ne témoigne pas d'une espèce de fétichisme ou de naïveté pro-napoléonienne.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, voyez, donc,
mais reconnaissez que Chateaubriand, dont j'admire le style, y compris quand il parle d'ailleurs de Napoléon Bonaparte, n'est pas exactement le critère de l'égalité quand même. Le courant politique auquel il se rattache n'est pas favorable à l'égalité.
Oui,
il se rattache plutôt au courant contre-révolutionnaire, si vous voulez, ou légitimiste, auquel il donne évidemment un style merveilleux.
Un homme entre deux rives.
Mais il n'est pas le réalisateur. Patrice Guénifet parle de l'égalité civile. Oui, c'est inscrit dans les textes, c'est vrai. Mais c'est Napoléon qui restaure le livret ouvrier. C'est-à-dire cette espèce de passeport dont l'ouvrier ne peut pas se séparer sous peine d'être accusé de vagabondage lorsqu'il va d'une ville à une autre.
La Révolution avait supprimé les corporations.
Oui, au nom de la liberté, mais...
Voilà, mais qui était une protection pour les ouvriers. Donc, les mesures socialement rétrogrades, elles étaient aussi bien le fait de la période antérieure que de la période napoléonienne.
On peut discuter de la loi Le Chapelier, effectivement, voilà, et oui, du rapport entre les corporations, c'est pas les syndicats modernes, quand même. Hein, bon, donc c'est pas tout à fait ça.
Elles étaient protectrices.
Elles étaient protectrices, elles enfermaient aussi dans une hiérarchie des maîtres, des compagnons et des apprentis. Donc c'était quand même lié plus à l'Ancien Régime qu'à une vision moderne de l'égalité. Mais Napoléon, comme je l'ai dit tout à l'heure, restaure une noblesse quand même. Du point de vue de l'égalité civile dont vous parlez, restaurer une noblesse, d'abord réhabiliter en partie la noblesse ancienne, et ensuite créer une nouvelle noblesse napoléonienne en espérant que les deux se fusionnent, ce qui ne se produira pas, ne me paraît pas être une démonstration d'égalité.
Mais ce n'est plus la naissance, c'est une noblesse à laquelle chacun peut rêver d'accéder. Et là, nous arrivons vers ce versant imaginaire. Napoléon ouvre des horizons, le champ des possibles semble s'élargir, l'héroïsme napoléonien, l'héroïsme qu'il incarne, paraît en quelque sorte accessible à tous, d'où en effet cette popularité extraordinaire et ce mémorial de Sainte-Hélène qui était la lecture de chevet de Julien Sorel.
Je reste sur le terrain de l'égalité, l'héroïsme est accessible à tous, sauf aux fils de notables. Lorsqu'ils veulent s'en départir, un certain nombre d'entre eux partiront, attirés par l'héroïsme, par le désir de gloire, parce que la caste militaire est la caste qui domine la société dans cette époque effectivement glorieuse. Mais tous ceux qui décideront de ne pas partir ou dont les pères décideront pour eux-mêmes, au nom de leur autorité justement, née du code civil, ou plutôt confirmée dans le code civil, qu'ils ne doivent pas partir se faire tuer bêtement à la guerre, alors qu'ils peuvent profiter de leur rente ou de leur fortune, pourront racheter un remplaçant. Et donc là aussi, on est loin du terrain de l'égalité. Quant à Julien Sorel, à Fabrice Del Dongo et à l'amour des romantiques de Napoléon, ça ouvre encore un autre champ qui nous rapproche de la question de l'imaginaire, peut-être.
Oui, bien sûr. Alors, Patrice Guénifet, et on y viendra.
Oui, je crois que vous avez tort de négliger les passions positives qui ont été celles de cette époque. C'était d'abord une passion politique de la reconstruction, parce que enfin, après 10 années de troubles, de déchirements, de luttes civiles, il devenait possible de faire des choses concrètes. Et je crois qu'en grande partie, le charme qu'a exercé le souvenir de l'Empire au XIXe siècle, c'est qu'il s'identifiait avec une idée de l'efficacité politique. Donc ça reste comme une époque où on a fait des choses. Et c'est pourquoi je la compare parfois, quand je discute de ce livre, au début de la Ve République, où après 1958, il y a eu exactement la même impression de pouvoir enfin faire des choses concrètes après une période de paralysie, même si ça n'a pas duré. Il y a ça. Ensuite, il y a la véritable émulation de la gloire qui a existé dans la société française et qui, c'est vrai, prend un tour essentiellement militaire. Parce qu'il y a une sorte de moment très curieux dans l'histoire française. On est au début du XIXe siècle, on est à l'époque de Benjamin Constant, et les Français s'engagent dans une espèce d'aventure de la liberté des anciens, de l'héroïsme, de la guerre, de la conquête, de la violence, qui là encore va nourrir ce mythe napoléonien pendant plusieurs générations.
Plusieurs générations.
Voilà. Et il y a eu une véritable émulation de partir à la guerre. Je pense qu'il y a plus de gens qui y allaient volontairement, animés par des rêves de gloire. Après tout, vous savez, l'histoire de Murat extraordinaire, celle de Lannes, celle de Davout, sont des gens qui viennent de nulle part, de très bas dans la société, et qui montent aussi haut qu'on peut monter dans une vie humaine. Et ça a exercé un attrait sur le moment, et ensuite
d'ailleurs,
très
on trouve un écho de cet attrait même chez Stefan Zweig dans Le Monde d'hier. Il écrit: Balzac a exposé de façon magistrale comment l'exemple de Napoléon a galvanisé en France toute une génération. L'ascension éblouissante du petit lieutenant Bonaparte, élevé à la dignité d'empereur du monde, signifiait pour lui, Balzac, non seulement le triomphe d'une personne, mais une victoire de l'idée de jeunesse. Qu'il ne fut pas nécessaire d'être né prince pour acquérir tôt la puissance, qu'on pût être issu d'une famille modeste et même pauvre et être général à 24 ans, à 30 souverain de la France et bientôt après du monde entier, ce succès unique arrachait des centaines de jeunes gens à leur petit métier et à leur ville de province. Le lieutenant Bonaparte échauffait les têtes de toute une génération. C'était une rupture avec l'ancien régime, la naissance, et une rupture aussi avec un individualisme qui n'était que bourgeois, dont la sécurité, en quelque sorte, bornait l'horizon. Et effectivement, cette double rupture a fait rêver.
Mais je ne néglige en rien ce rêve. C'est la révolution qui permet ce destin exceptionnel, et c'est Napoléon Bonaparte qui le réalise, ce propre destin, naturellement. Si on se place à l'intérieur de la France, Napoléon est populaire lorsqu'a lieu le coup d'État, qui se passe d'ailleurs sans effusion particulière de sang. C'est un coup d'État tranquille, préparé de l'intérieur, réussi, et Napoléon est populaire parce qu'il est censé apporter l'ordre, la tranquillité publique et la paix. Il apportera les deux premiers, et il apportera pendant un temps la paix, puis sera emporté dans la guerre. Simplement, la question que je pose et la problématique que j'évoque, c'est qu'il n'avait au fond pas besoin véritablement de passer d'une république consulaire autoritaire populaire, et affirmée notamment par des plébiscites, à un régime despotique et à une restauration monarchique. Et si je me place maintenant à l'extérieur, c'est-à-dire par rapport aux rêves de gloire, à la réalisation des conquêtes, je ne mets pas ça en cause en quelque sorte, ou en tout cas, je ne le prends pas comme des événements médiocres, mais je dis simplement l'incapacité de Napoléon Bonaparte à fixer des buts de guerre clairs pour la France, à fixer pour la France des ambitions réalistes et pérennes, débouche finalement sur un échec final absolument catastrophique. Donc, ça n'est pas d'une certaine façon le génie du héros que je mets en cause. C'est du point de vue des intérêts de la France, qui était mon angle de vision, je le rappelle dans cet essai, l'examen d'une démesure, en quelque sorte. Et j'oppose, sans le faire de façon systématique, mais pendant toute cette période de 15 ans, l'attitude de l'Angleterre, qui, elle, abordera toute la période avec un extraordinaire réalisme et qui en sortira vainqueur.
Oui, cette démesure, vous allez y être confronté dans le deuxième tome de votre biographie. Bon, et à partir du sacre, quand même, avec le sacre, quelque chose se passe.
Oui,
Furet parle de kitsch carolingien, et il n'a pas tort. Enfin, c'est la réincarnation de Charlemagne par-dessus les Capétiens, ses sceptres, etc. Même le portrait qu'on en a, il y a quelque chose qui se passe là. On a l'impression que Bonaparte, basculant dans Napoléon, perd en effet le sens de la mesure et tombe dans une hubris qui va être catastrophique, notamment en termes de pertes humaines.
Oui.
Patrice Guénifet.
Bon, d'abord, pour faire la paix, il faut être deux. On ne fait jamais la paix tout seul. Bon, d'autre part, il faut garder la mesure et voir les deux côtés du problème. Alors, du côté favorable, il faut dire que vous dites, Lionel Jospin, qu'effectivement, la paix faisait partie de son mandat. Au 18 Brumaire, on peut considérer que l'assentiment des Français au coup d'État comportait un mandat. La paix faisait partie de ce mandat, mais pas n'importe quelle paix. C'est-à-dire que s'il avait négocié avec les puissances européennes pour signer un traité de paix, pour finir la guerre, assurément, il ne serait pas resté longtemps. Les révolutionnaires lui avaient donné pour mandat de conserver une paix glorieuse, c'est-à-dire une paix sans rien céder. Et à partir du moment où vous faites la paix, vous voulez faire la paix, mais sans rien céder, vous ne pouvez pas durablement faire la paix. Vous ne pouvez conclure que des trêves. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, il est enchaîné par cette espèce de serment auquel les révolutionnaires sont liés depuis 1795, qui est que la Belgique doit rester française. Or, c'est une chose absolument inacceptable pour l'Europe, parce que ça détruit tout équilibre en Europe, tout le vieux système de l'équilibre européen. C'est inacceptable. Il y a ça. Donc ensuite, de l'autre côté, il y a effectivement une part d'hubris qui n'est pas simplement l'effet du sacre, même si le sacre permet de révéler cette hubris, qui est dans sa personnalité même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui découvre au fur et à mesure, mais très vite, l'étendue extraordinaire de ses capacités et qui est animé d'une ambition qui n'a pas de terme. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire pour lui, chaque pas franchi, c'est le préalable à un nouveau pas à franchir. Il n'y a pas de fin. Parce qu'il y a dans sa conception de la vie et de l'action quelque chose d'existentiel. C'est-à-dire, il est animé d'une énergie qui ne peut pas se reposer ou trouver de repos jamais. Dans cette mesure, à la fois, il n'est pas seul responsable de la catastrophe, mais en raison de sa personnalité investie d'un pouvoir tel que celui dont il a été investi, il courait nécessairement à la catastrophe. Et il faut prendre la mesure des deux...
C'est là, d'ailleurs, Patrice Guénifet, qu'on retrouve Taine et ce portrait absolument génial de Napoléon, un moi colossal qui est incessamment allonge, encercle ses prises rapaces et tenaces, que toute résistance blesse, que toute indépendance gêne, et qui, dans le domaine illimité qu'il s'adjuge, ne peut souffrir aucune vie, à moins qu'elle ne soit un appendice ou un instrument de la sienne. Et il cite aussi ce dialogue avec Joséphine. « J'ai le droit de répondre à toutes vos plaintes par un éternel moi. » Et il ne supporte pas, dit Napoléon, ne supporte pas, dit Taine, les bienséances, le savoir-vivre, tout ce qui pourrait l'empêcher de se répandre, d'être totalement ce qu'il est. Un individu, certes, mais peut-être un individu absolu,
oui,
ce qui fait peur.
Lionel Jospin. Oui, ce qui prouve que à l'époque où l'individualisme aspire à être dépassé, c'est un individu absolu qui s'affirme sur la scène française et sur la scène européenne. Le problème de la Belgique, c'est-à-dire le problème d'Anvers, c'est-à-dire le problème du débouché sur la mer du Nord, c'est-à-dire le problème de l'Angleterre, motif d'une lutte inexpiable, je ne le dénie nullement, effectivement. Mais est-ce que, sous prétexte qu'il y avait ce problème de la Belgique, il fallait conquérir l'ensemble de l'Italie ? Il fallait aller deux fois à Vienne et deux fois ou une fois, je ne sais plus, à Berlin ? Il fallait entreprendre la campagne, la guerre d'Espagne, et il fallait entreprendre la campagne de Russie. C'est-à-dire que on ne peut pas d'un côté dire qu'il y avait un noyau là dur qu'il aurait fallu aborder de façon réaliste, alors peut-être en cherchant un compromis avec l'autre puissance moderne de l'époque. Parce que quelle est l'autre puissance moderne de l'époque ? C'est l'Angleterre. Enfin, je ne parle pas des États-Unis qui ont fait une révolution et instauré une république, mais ils sont de l'autre côté d'un Atlantique qu'on franchit beaucoup plus lentement. Et ils ne cherchent pas du tout ce compromis. Et ils le cherchent dans une conquête impossible de l'ensemble de l'Europe à préserver des précarés. C'est une contradiction absolue. Et c'est pourquoi, me plaçant du point de vue des intérêts de la France, je pense que ce passage a été absolument néfaste. Et ce que j'ai entendu de l'argumentation de Patrice Guénifet à l'instant ne me paraît pas, en l'espèce, ça éclaire le personnage, mais ça ne contredit pas ma thèse. Or, moi, je ne suis pas un nouveau biographe de Napoléon, ni même de Bonaparte. Je ne suis pas un portraitiste. Je suis quelqu'un qui me place en surplomb d'une période historique pour la France, qui constate le rôle d'un acteur, qui le juge néfaste, qui le dit, qui l'argumente. Et j'ai rarement été contredit par les historiens, y compris par les spécialistes, sur les faits. Je l'ai été sur l'interprétation, ce qui est bien normal. Et puis qui ensuite... Moi, toujours là, l'espèce, je tire ce fil du bonapartisme dans l'histoire française.
Oui, et ça, c'est ce qu'on va examiner
oui,
après la réponse Patrice Guénifet.
En deux mots, simplement. Bon, on pourrait quand même vous chicaner sur votre interprétation des guerres napoléoniennes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la France ne disposait pas de marine, digne de ce nom, l'Angleterre était certaine à terme, si elle tenait, de gagner la guerre, si bien que pour lui, la seule façon d'obliger les Anglais à s'asseoir à une table de négociation, c'était de leur fermer le marché européen. D'où cette folie du blocus continental qui l'a obligé effectivement à courir en Espagne, au Portugal et même jusqu'à Moscou, ce qui était une folie absolue. Mais à partir du moment où il était engagé dans cette logique, c'était perdu. Mais l'idée ne venait pas de lui, elle venait du directoire.
Mais en même temps, s'il a entrepris cette folle campagne de Russie, c'était parce que le tsar Alexandre ne respectait plus l'alliance de Tilsit. Et il semblerait qu'il ait mené cette campagne précisément pour retrouver
pour rétablir
cette alliance dont il avait absolument besoin. Donc il y avait quand même, c'était pas simplement un rêve de grandeur, de souveraineté sur le monde. Il y avait une cohérence politique dans cette action qui lui a été fatale.
Il croit avoir barre sur le tsar Alexandre. Il ne comprend pas que le tsar Alexandre a changé notamment d'entourage. Et donc il va s'obstiner dans la certitude qu'Alexandre va venir parler avec lui et qu'il pourront renouer leur alliance.
Voilà, c'est ça.
Et c'est une erreur de jugement qu'on peut imputer en partie à l'hubris de Napoléon. Son tort, au fond, c'est pas d'être engagé dans cette affaire du blocus continental, c'est de croire qu'on peut le réaliser. Et ça, c'est une croyance qu'il a héritée non seulement de son propre génie, mais de la Révolution française, qui est de croire que tout est possible dès lors qu'on s'en donne les moyens. Et c'est un peu la tragédie de cette époque.
Donc, effectivement, il faut retrouver le sens des limites. Mais Napoléon, c'est pas seulement Napoléon, c'est en effet l'héritage de Napoléon. C'est une figure qui hante l'histoire de France, pour le meilleur et semble-t-il, selon vous, Lionel Jospin, pour le pire. Il y a eu l'épisode du Second Empire, il y a le rêve récurrent d'un homme providentiel. Donc faut-il, au vu de ce qu'a été l'histoire de France, en finir une fois pour toutes avec la hantise de Bonaparte, Lionel Jospin, ou avec l'idolâtrie de Bonaparte?
Effectivement, je disais tout à l'heure que quand on examinait l'héritage de Napoléon Bonaparte, il fallait peut-être parler des héritages de Napoléon Bonaparte. 1815, c'est l'échec. Mais 1830-40, sous les restaurations, donc les restaurations monarchiques qui se sont faites comme épilogue finalement de l'Empire, naît la légende napoléonienne, fondée à la fois sur la déception que produisent ces régimes monarchiques et aussi sur l'utilisation massive du mémorial de Sainte-Hélène, qui est un exercice extraordinaire de reconstruction politique et littéraire de la trajectoire d'un homme par lui-même, si vous voulez. Et puis, quand on passe à 1848, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu, à la présidence de la Deuxième République, puis 1851, le coup d'État de décembre, on a tout d'un coup la résurgence. On n'est plus seulement dans l'héritage, on est dans la résurgence d'un empire qui est d'une toute autre nature, mais qui se réfère effectivement aux thèmes impériaux et à toute une conception, alors cette fois théorisée par le neveu du bonapartisme. Et ce courant autoritaire, ce mythe d'un homme providentiel, il va effectivement courir dans l'histoire française. Il va contribuer, sinon à déstabiliser, en tout cas à inquiéter les républiques. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était utile de l'examiner. Aujourd'hui, nous n'avons pas à craindre un Bonaparte, mais nous avons... Enfin, bon, je traduis le geste des mains qui se lèvent de Patrice Guénifet qui s'interroge. Bon, alors, si ce doute, il faudrait que je lui donne un instant. Enfin, c'est moi, pas à moi lui donner la parole, pardonnez-moi, Alain Finkielkraut, mais peut-être pourrait-il expliciter son geste avant que nous repartions.
J'espère qu'il aura le temps, bien sûr.
Bon. Et donc, alors je me tais pour qu'il puisse expliciter son geste.
Non, c'est que je suis historien, donc je sais par métier, par profession, que l'histoire n'est écrite nulle part.
Oui.
Et que précisément l'histoire politique, c'est l'événement avec toute l'incertitude que ça représente. Alors, je pense que vous exposez bien les métamorphoses successives de la légende napoléonienne, ou plutôt des légendes napoléoniennes. Car à mon avis, le premier Napoléon ne peut pas être qualifié de bonapartiste. Le deuxième, oui, Napoléon III, oui. Mais au fond, vous ne faites pas le lien, et c'est un peu, mais on sent que c'est en filigrane dans votre livre, vous ne faites pas le lien avec un effort pour resituer Napoléon dans l'histoire française de plus long terme. Parce qu'après tout, il n'y a pas eu de Napoléon ailleurs. Il y en a un qu'en France, on en a même eu deux. Mais on en a surtout eu un. Et je pense que ça a un lien avec le fait que la France est un pays qui s'est construit autour d'un État. Ce n'est pas une société qui se donne un État. C'est un État qui invente une nation. Et ça explique pour beaucoup la fascination que représente la volonté impérieuse, l'autorité, le pouvoir fort, l'homme providentiel, parce que c'est un peu à travers ces figures, depuis Philippe Auguste, Philippe le Bel, etc., etc., jusqu'à une époque même récente, jusqu'au général de Gaulle, que la France s'est construite comme nation. Et c'est ce qui explique la place que Napoléon tient toujours dans notre panthéon national ou imaginaire.
Voilà. Alors, oui, bon, national. Vous avez parlé du général de Gaulle. Oui. Il y a un passage de votre livre qui a été très discuté, Lionel Jospin.
Oui, mais,
alors, allez-y.
Je crois que vous allez me parler de Pétain.
Ah, ben ça, c'est évident. Vous n'y échapperez pas.
Mais nullement l'intention d'y échapper. Mais je crois que là, Patrice Guénifet vient de lancer un débat qui est extrêmement intéressant. Et qu'il prolonge, d'ailleurs, d'un débat que nous avons eu pour Marianne. Celui qui nous a interrogé, Thomas Rabineau, a bien résumé, en partant évidemment de nos citations, de nos textes, deux positions quand même assez différentes qui sont celles de Patrice Guénifet et de moi-même. À mon propos, il dit « La légitimité du sauveur introduit un trouble dans l'identité politique de la France républicaine. » Citation de Lionel Jospin. À propos de Patrice Guénifet, il écrit « La France est un pays qui a beaucoup de mal à faire corps sans la médiation d'un sauveur ou celle de l'État. » Citation Patrice Guénifet. Et là, on est effectivement devant deux conceptions assez différentes. Moi, personnellement, je ne crois pas au mythe du sauveur, ou plus exactement, je veux le déconstruire, et je n'identifie pas l'État au sauveur. C'est-à-dire que parler d'un sauveur et parler de l'État, bien sûr, la France s'est construite autour de son État, mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est d'avoir un État démocratique. Ça n'est pas d'identifier l'État au sauveur, seul capable de donner la clé pour ce que Patrice Guénifet appelle l'énigme française. Et moi, je pense qu'il faut justement que notre pays cesse d'être énigmatique.
D'accord. Mais alors justement, il cesse d'être énigmatique. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il redevienne normal? Je voudrais quand même parler de Pétain une seconde, puisque vous avez ce passage très paradoxal où vous dites que s'il y a un véritable héritier de Napoléon, ce n'est pas de Gaulle, homme providentiel, s'il en est.
Et pourtant.
Mais Pétain, alors que tout de même, la Révolution nationale s'est faite à l'ombre de la défaite et que Napoléon n'existait que parce qu'il volait de victoire en victoire. Et cela, ni Bernanos, ni Jankélévitch ne l'ont pardonné au pétinisme. Et puis, vous dites, alors, deuxième question, si vous voulez, qui va très au-delà, mais malheureusement, le temps nous presse. Homme providentiel, peut-être pas. Il arrive que la France en ait besoin. Le 18 juin, heureusement qu'il y a eu cette providence. Et en même temps, un président normal, est-ce que c'est ce que la France peut souhaiter, même dans une période qui n'est pas une période de guerre? Donc, l'homme providentiel, on doit sortir de ce mythe. Le président normal, il semble qu'on en voit aujourd'hui toutes les limites. Donc, comment se situer? Voilà, beaucoup de questions pour le peu de minutes qui nous reste. Lionel Jospin, puis Patrice Guénifet pour conclure.
D'abord, sur... je ne fais pas de commentaires de l'actualité, oui, donc je ne veux pas comparer, parler des présidences normales. Mais pour ce qui me concerne, à propos de la grandeur, car je souhaite que la France soit grande, je dis la forme moderne de la grandeur pour la France doit être l'exemplarité. Voilà, pas la domination, pas la gloriole, l'exemplarité. C'est ça, la forme de la grandeur. Sur le pétinisme, bien sûr qu'il est le produit de la défaite, mais je ne compare pas, quand on lit mon livre, Pétain à Bonaparte, le vieux maréchal au jeune caporal ou au jeune général, je compare la matrice du pétinisme avec ses relents réactionnaires, au bonapartisme, c'est-à-dire au régime autoritaire et au mythe de l'homme providentiel et du sauveur. Et Pétain, en 40, est présenté comme un sauveur et comme un protecteur pour la France. Quant à De Gaulle, le 18 juin, il ne se projette pas comme un homme providentiel. C'est la suite qui fera qu'il sera ainsi. Il est un général qui, courageux, un colonel d'ailleurs, encore peut-être à l'époque, oui.
Il est général.
Oui. Il est général et c'est un homme qui simplement n'accepte pas la défaite et fait un acte courageux autour duquel va se construire une histoire dans laquelle aussi la résistance intérieure a pris toute sa part. Donc il ne se projette pas comme un homme providentiel, il se projette comme un homme de courage qui refuse la défaite. C'est toute la différence. Mais à propos de Pétain, et quand même pour que vous soyez à l'aise, je dis bien qu'il s'agit d'un bonapartisme de la sénescence lié à la soumission et non pas lié à la domination. Moi, je ne propose ni soumission ni domination. Je propose une forme démocratique d'exemplarité dans le dialogue avec les autres nations.
Bon, alors, Patrice Guinifet, pour conclure.
Bon, s'agissant de Pétain, en deux mots, d'abord il y a l'âge, ensuite c'est un régime fondé sur la défaite, c'est un régime aussi qui récuse en bloc l'héritage de la Révolution que Napoléon a consolidé, même si vous êtes en désaccord sur ce point. Et enfin, c'est un régime de la guerre civile, alors que Napoléon s'est efforcé précisément de mettre fin à une guerre civile qui avait duré 10 ans. En revanche, à l'inverse, sur De Gaulle, je suis là encore en désaccord total avec vous. Alors peut-être que c'est un homme qui dit non, comme disait Robert Hossein, mais en réalité, dans sa tête, il est la France, il est la légitimité qui part à Londres dans un pays qui capitule face à l'envahisseur et il part pour sauver l'honneur de la France dont il estime être l'incarnation. Et en dépit des souhaits en faveur d'un régime exemplaire, d'une république exemplaire, etc., il se trouve que la constante la plus importante de l'histoire française, c'est qu'en France, la politique et l'État s'incarnent. Et si la Révolution française a finalement échoué, qu'elle a débouché sur Bonaparte, c'est précisément parce qu'elle n'a pas réussi à s'incarner. Et si les républiques successives ont eu beaucoup de mal à s'enraciner, c'est précisément à cause de ce problème-là. Et c'est quand la République va s'incarner enfin avec le général de Gaulle qu'elle arrivera finalement à s'enraciner.
Mais vous diriez du général de Gaulle qu'il est une sorte de successeur de Bonaparte ?
Oui, il l'est en tout cas en 1958, lorsqu'il fonde la Ve République.
En même temps, le gaullisme et le bonapartisme, c'est très différent.
C'est très différent, mais il l'est aussi parce que Bonaparte est très présent dans sa réflexion et dans ses écrits. Si vous prenez le fil de l'épée, la France et son armée, vous avez toute une analyse du personnage de Napoléon, de ses forces et de ses faiblesses, puisque le général de Gaulle n'était pas aveugle non plus au caractère ambivalent de l'héritage et du bilan.
Eh bien, caractère ambivalent de l'héritage, on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler, Lionel Jospin, le titre de votre livre, très critique et très documenté, Le mal napoléonien, aux éditions du Seuil. Bonaparte, Patrice Guinifet, le premier tome de votre imposante biographie, est publié chez Gallimard. Vous trouverez ses références et toutes les autres sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, nous commencerons les rediffusions d'été par Traité de savoir-vivre à l'usage de toutes les générations avec Mona Ouzouf et Philippe Reynaud. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Lionel Quentin. À la technique aujourd'hui, Johan Blanc, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.